Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez le journal radiophonique amplifié numéro 59 du jeudi 16 janvier 2020. Ce soir, il est 20h25, il est un peu tard pour commencer un JRA, mais on va le faire tout de même avec les petits retards techniques et les petits aléas du direct. Tout de suite, on commence sans attendre et sans prendre encore plus de retard. L'actu mixé, égalisé, monté et bien sûr amplifié.
Le journal radiophonique amplifié sur Transistor.
On commence tout de suite avec le journal. On va parler des retraites, on va parler de violences policières, de l'Iran, de la chaleur et de l'Australie. Mais on commence avec le national et un tout petit point sur les mobilisations, puisqu'aujourd'hui c'était une journée de manifestation. Alors, après 6 semaines de grève et de très nombreux rassemblements partout en France, la contestation du système à points porté par le gouvernement est toujours en vigueur. Aujourd'hui, l'intersyndicale avait appelé à une 6e journée de mobilisation. La participation était en légère baisse par rapport aux précédentes. La CGT a revendiqué 250 000 manifestants contre 370 000 à Paris le 9 janvier. Et le chiffre avancé pour Lyon était de 16 000 à la place de 27 000 le 9 janvier. La police, elle, a compté 6 600 manifestants. Malgré cette diminution, la mobilisation parvint à tenir sur la durée et au sein des cortèges, les corps professionnels représentés sont nombreux, les enseignants, les personnels hospitaliers, les avocats, les cheminots. À Lyon, il y avait aussi le domaine de l'énergie, de la culture, les étudiants. Et en dehors des manifestations, la grève continue amener des troubles dans les transports autant à la RATP qu'à la SNCF et 4 raffineries sur 7 connaissent toujours des difficultés. Si le gouvernement a accepté de supprimer l'instauration progressive à partir de 2022 de l'âge pivot, associé à un bonus-malus, l'opinion publique soutient majoritairement la poursuite de la contestation. De nouvelles manifestations ont été annoncées pour le 22, 23 et 24 janvier. Et tout de suite, on parle des hôpitaux avec toi Marie.
Oui, un petit point sur la situation. Mardi, 1200 médecins hospitaliers avaient annoncé démissionner de leur fonction d'encadrement, estimant insuffisant les 200 millions débloqués par le gouvernement pour 2020 en faveur de l'hôpital public. Pour eux, il faudrait ajouter à cette somme 600 millions d'euros pour garantir un hôpital public de qualité. Le personnel hospitalier dénonce un manque de personnel et de lits, un sous-financement institutionnalisé et l'introduction d'un objectif de rentabilité qui s'est résumé à une demande de faire plus avec bien moins. En grève depuis parfois plus de 10 mois, les médecins et aides-soignants ont exprimé leur colère face à des situations inacceptables, une infirmière pour 13 lits dans beaucoup d'hôpitaux, des transferts dangereux dus à la dévalorisation financière et des situations aux urgences qui restent inacceptables. Également évoqué, un salaire des infirmières dans les hôpitaux publics français classé 28e sur les 32 pays de l'OCDE, les postes vacants et le rôle trop important octroyé aux directeurs d'hôpitaux, une situation plus urgente que jamais.
Et on parle aussi des enseignants avec toi, Martin.
Et oui, entre 2019 et 2020, on a baissé de 10%. Je ne parle pas ici de décroissance, mais bien du nombre d'inscrits au concours du CAPES et de la GREG. Alors, je calme tout de suite mes camarades qui, derrière moi, trépignent de joie en se disant que le nombre de places va augmenter et qu'ils vont sûrement avoir une place.
Oui, je les vois dans le studio, ils trépignent de joie, c'est incroyable.
Mais non, en fait, ce nombre de places a également baissé. Si j'en crois Le Monde, qui a publié un article sur le sujet, ceci est dû à une baisse d'attractivité des concours de l'enseignement, baisse que l'on connaît, pour être plus précis, depuis 2016. Aujourd'hui, même les matières SVT et SES, qui étaient jusque-là les seules épargnées par cette baisse d'attractivité, ont connu respectivement une baisse de 15% pour la SVT et une baisse de 22% pour la SES. L'allemand étant, bien sûr, la plus sévèrement touchée. En cause, les salaires médiocres des professeurs, la longueur des études demandées pour arriver à ce poste, mais aussi la hausse des contractuels. Pour remédier à cette situation, le ministère dit vouloir communiquer mieux sur les métiers de l'enseignement, ce qui va sans doute tout arranger, et délivre une enveloppe de 500 millions, va débloquer une enveloppe de 500 millions d'euros, ce qui va permettre à ces chers professeurs de payer leur retraite.
Et on reste dans le domaine de l'enseignement avec la réforme du supérieur et de la recherche.
Et oui, l'on continue dans cette thématique de la précarisation avec la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, qui est une loi aujourd'hui encore en préparation et dont on ne garde qu'une, on a pour l'instant qu'une idée générale. Idée générale constituée de deux principaux éléments. Tout d'abord, le budget. Le budget, on n'y touche pas. Quand on ne le baisse pas, il stagne. Ce qui va sans doute provoquer une multiplication des postes non renouvelés, voire supprimés. Le deuxième élément important de la réforme est son esprit, l'esprit de la mise en concurrence. Cette mise en concurrence se fera par plusieurs propositions concrètes. Tout d'abord, la mise en place de CDI projets, qui sont des CDI qui se termineront sans titularisation, ce qui permettra d'engager une armée de précaires, mais aussi, par exemple, par la mise en place pour le retour pour les chercheurs à une modulation des heures d'enseignement, et enfin, l'instauration de cadres d'évaluation à l'échelle locale, davantage qu'à l'échelle nationale, qui permettront de juger de la bonne marche de cette compétition.
Merci Martin, et tout de suite on part à l'international et on fait un petit point sur la Russie.
Oui, alors hier se tenait à Moscou le sommet de la Russie, présidé par un Vladimir Poutine qui a clairement fait comprendre ses intentions pour son pays. Le président a d'abord limogé son premier ministre, Dmitri Medvedev, pourtant connu pour sa loyauté, ainsi que tout son gouvernement. Poutine a ensuite désigné comme nouveau premier ministre Mikhail Mishustin, inconnu du grand public mais patron du fisc russe. À Moscou, Vladimir Poutine a également annoncé plusieurs réformes constitutionnelles qu'il entend faire voter par référendum. Parmi les modifications de la Constitution qui ont été évoquées, renforcer les pouvoirs des gouverneurs régionaux, obliger les candidats à la présidentielle à avoir vécu en Russie les 25 dernières années, et surtout interdire aux membres du gouvernement et aux juges d'avoir des permis de séjour à l'étranger. Poutine a également annoncé que la Russie devait rester, je cite, « une république présidentielle forte » et qu'à ce titre, le président pourrait limoger tout membre du gouvernement ou de la Cour suprême, nommer les chefs des structures de sécurité et briguer plus de deux mandats consécutifs. Et si Poutine donne au Parlement le rôle d'élire le Premier ministre, on rappellera qu'il ne prend qu'un faible risque étant donné que les deux chambres de ce Parlement sont aujourd'hui majoritairement pro-Poutine. Interdit de se représenter pour briguer un quatrième mandat, Poutine n'entend donc pas lâcher les rênes de son pays et prévoit déjà une stratégie efficace pour garder le pouvoir jusqu'à son départ, et même après, en 2024.
Et tout de suite, on va aux États-Unis.
Oui. Alors, un petit point primaire américaine, avec à moins de deux semaines du premier vote de ces primaires-là, qui se déroulera dans l'état de l'Iowa le 3 février, un tout dernier débat chez les démocrates qui a fait couler de l'encre. À son centre, le socialiste Bernie Sanders, qui n'a pas hésité à tirer à balles réelles sur l'autre favori de cette primaire, l'ancien vice-président Joe Biden, pour son vote en 2002, autorisant Bush à attaquer l'Irak. Alors que l'ambiance était déjà tendue, une autre polémique a explosé avec les révélations de la chaîne CNN affirmant que M. Sanders avait déclaré fin 2018 à Elizabeth Warren, troisième favorite, qu'une femme ne pourrait pas gagner la présidentielle contre Donald Trump. Situation en réalité un peu plus complexe puisque Bernie Sanders affirme qu'il n'a pas dit cela et... Le sénateur indépendant, qui pourtant tient un dossier impeccable et souvent considéré comme le plus progressiste des candidats démocrates, très proche d'ailleurs du phénomène Ocasio-Cortez, dit que cette phrase doit être recontextualisée dans une discussion qui parlait de l'histoire des femmes qui s'étaient portées candidates aux présidentielles américaines. Affaire à suivre, en tout cas.
Et on reste aux États-Unis.
Oui, bah enfin aux États-Unis, mais aussi en Chine, parce que Donald Trump a signé un accord mercredi dernier, un accord commercial préliminaire avec le vice-premier ministre chinois Liu He, un pas de géant, je cite, pour rééquilibrer le commerce entre les deux grandes puissances économiques. Accord qui suscite cependant quelques réserves aux États-Unis. Pour contextualiser, je vais citer le président états-unien, c'est pas à mon plaisir, mais bon, je vais le citer quand même. « Aujourd'hui marque une étape historique qui n'avait jamais été franchie vers un accord commercial juste et réciproque entre les États-Unis et la Chine », a donc déclaré le président américain lors d'une très longue cérémonie à la Maison-Blanche. Bon, déclenché au printemps 2018 pour mettre fin aux pratiques commerciales chinoises jugées déloyales, un conflit entre la Chine et l'Amérique
auquel cet accord met partiellement fin, s'était matérialisé par des droits de douane punitifs réciproques sur des centaines de milliards de dollars de marchandises échangées chaque année. Pour l'heure, ce traité profitera donc essentiellement aux agriculteurs et industriels qui avaient été victimes collatérales de ce conflit. La Chine s'est engagée à acheter pour 200 milliards de dollars de produits américains supplémentaires au cours des deux prochaines années afin de réduire le déséquilibre commercial, grande revendication de la Maison-Blanche. L'accord contient également des dispositions relatives à la protection de la propriété intellectuelle et aux conditions de transfert des technologies, autres grandes exigences des États-Unis.
Merci Nicolas, et c'est la fin de ce journal. On passe tout de suite à la revue de presse et on fait le tour de l'actualité dans les rues, dans les journaux.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence hein, cette revue de presse avec...
Et la revue de presse, Marie, ça commence avec...
Bien, ça commence avec une petite devinette qui n'en est pas une, parce que je n'avais pas d'idée d'accroche. Top, je suis l'année de la bande dessinée des sages-femmes de la santé des végétaux et du rat de métal. J'ai commencé sur les chapeaux de roue entre retraite, tension États-Unis, Iran et incendie en Australie. J'accueillerai la COP 15 et les Jeux Olympiques et je fais beaucoup parler de moi. Je suis.
L'année 2020 !
Exact, Nicolas, tu es le plus réactif de ce studio, tu es la seule personne encore réveillée à 20h36, ça fait peur. Eh bien, la presse de ce début de mois s'est livrée à un exercice difficile, spéculer sur l'année à venir. Alors jouons-nous aussi à imaginer ce que 2020 nous réserve.
Et 2020 pour les journaux, c'est l'année de quoi alors ?
Eh bien, c'est une année qui commence par un défi. La Croix révèle son sondage inédit selon lequel seuls 6 Français sur 10 disent s'intéresser à l'information. L'intérêt des Français pour l'actualité n'a jamais été aussi bas. Un constat qui sonne pour les journalistes comme une invitation à un nouveau traitement de l'info. Alors dans l'Obs, on en parle justement du traitement de l'info. L'essayiste Mara Goyer s'intéresse à un homme, Paul Deschanel, qui il y a 100 ans, presque jour pour jour, était élu président de la République française. Si l'homme était député, sénateur et académicien, cultivé et élégant, personne ne s'en souvient. Non, ce dont on se rappelle, c'est le fait qu'il soit tombé par la fenêtre de son train et se soit retrouvé sur les voies, en pleine nuit et en pyjama, avant d'être recueilli par une garde-barrière.
Et où veux-tu en venir ?
Eh bien, on pourrait dire qu'ici, le fait divers a eu raison de l'œuvre et de la pensée d'un homme politique. Alors pour la chroniqueuse, il s'agit aujourd'hui de s'émanciper du fait divers. Et à ceux qui disent que ce fait divers a quand même permis à Paul Deschanel d'être connu, on répondra qu'aujourd'hui, le fait divers n'a même plus cette fonction, puisque pour se faire connaître, il suffit, je cite, de rester affalé dans une villa à palmiers. Alors à l'ère du fait divers et de la célébrité sans effort, osons être exigeants et réclamer une forme d'information qui aille chercher plus loin que des titres faciles, conclut la journaliste. Et dans Libération, justement, on s'y essaie. On nous présente un reportage sur un état situé à l'autre bout du monde, celui de Sikkim, en Inde, près de l'Himalaya, qui a gagné son pari de n'utiliser aucun pesticide et de vivre seulement d'une agriculture naturelle capable de subvenir aux besoins locaux. Aucun pesticide, mais un don d'engrais biologique pour 25 000 agriculteurs et des paysans formés pour produire leur propre engrais, urine et bouse de vache, eau, lait et farine de pois chiches. Mais pas d'idéalisme pour autant, Libération nous rappelle qu'en Inde, les subventions aux engrais chimiques ont augmenté de 15% entre 2019 et 2020 et qu'un tiers des terres est en voie de désertification.
Donner à voir des perspectives nouvelles, le pari est donc réussi, mais quel autre but alors pour la presse cette année ?
Eh bien peut-être de mettre le doigt sur ce qui cloche dans notre société bancale, ce qui dérange mais que l'on préfère souvent garder pudiquement sous silence. Et non, ce n'est pas le monopole du canard qui chambre Christophe Castagneur et qui titre aujourd'hui « Macron découvre enfin l'existence des violences policières, désolé, ça ne m'avait pas sauté aux yeux ». Pointer du doigt ce qui va mal, c'est d'abord ce que fait Le Monde aujourd'hui, qui souligne à quel point les violences policières affaiblissent la légitimité d'un État qui ne semble pouvoir répondre que par une force disproportionnée à ce qu'il fragilise. Le journal souligne néanmoins une posture inédite du gouvernement. Macron a rappelé à l'ordre les policiers et les gendarmes face aux violences policières, alors que les députés de gauche accusent le gouvernement d'avoir adopté une politique sécuritaire trop peu protectrice des libertés individuelles et d'avoir, je cite, « substitué l'ordre policier à l'ordre républicain ». Christophe Castaner est lui pris en étau entre colère des forces de l'ordre et débat sur les violences policières. Il a, dans ses vœux, appelé les policiers à faire preuve de responsabilité. Et dans l'Obs aussi, on veut révéler ce qui cloche. C'est ce que tente de faire le journaliste Vincent Jauvert, qui présente dans les pages du journal son dernier ouvrage, Les Voraces. On y voit d'abord un portrait des 8 ministres qui ont démissionné pour des raisons d'éthique depuis le début du quinquennat Macron, pour des raisons d'argent, de détournement et de homard. Problème pour le journaliste, Macron n'a pas effectué le recadrage auquel on aurait pu s'attendre. Au contraire, il a déclaré au début du mois que la transgression était, je cite, « dans la nature humaine », alors que l'on observe pourtant, je cite maintenant le journaliste, « une course effrénée à l'argent dans les hautes sphères du pouvoir ». Bref, il reste beaucoup à faire sur une question que les journalistes se doivent de révéler, sans voyeurisme ni hyperbole.
Et justement, on touche ici à un autre défi de la presse en 2020, non ?
Oui, c'est celui de faire entendre des voix qui résonnent et qui inspirent. Et cette semaine, c'est l'historienne Mona Ouzouf qui est invitée dans les pages de Libération à l'occasion de la sortie de son livre « Pour rendre la vie plus légère ». Et cette fois, on sort de l'actualité pure pour parler de la place des femmes et de la littérature. Mona Ouzouf explique que les livres, je cite, « allègent la vie, font sortir de l'étroitesse, nous font cadeau de l'ubiquité, de la familiarité avec des gens que nous n'aurions pas connus, des aventures que nous n'aurions jamais entreprises. » Et les femmes, elles, je cite Ouzouf, « allègent la vie par quelques-uns de ces embellissements minuscules que l'on peut apporter à l'existence. »
Et alléger la vie, ce serait un défi pour la presse d'aujourd'hui ?
Eh bien oui, les journaux pourraient aussi continuer à proposer des pages culture, des fenêtres ouvertes vers des choses qui permettent de s'émanciper du réel ou de porter sur le vrai un regard plus critique. Alors, dans la presse du jour, on nous invite à aller voir ailleurs pour nous donner de l'espoir pour 2020. Ailleurs, c'est sur l'île norvégienne de Somarov où l'on vit sans horaire depuis juin 2019. Comme la ville se trouve au nord du cercle polaire, elle est soumise à un climat particulier, 78 jours sans que le soleil ne se couche et 48 jours d'obscurité totale en hiver. Les membres du mouvement Free Time Zone ont donc milité pour abolir calendrier et horloge et donner plus de liberté aux habitants en leur permettant de s'extraire de la contrainte du temps. Ailleurs, c'est aussi en Israël où des chercheurs ont réussi pour la première fois à imprimer dans son intégralité un cœur en 3D comprenant cellules, ventricules et vaisseaux sanguins et composé de tissus humains prélevés sur des patients. Le prototype de cœur imprimé ne peut pas encore être implanté chez un humain, mais devra être greffé sur des animaux afin que son efficacité soit testée. Phileas, tu as de quoi faire pour le prochain billet scientifique.
Et puisque tu nous parles d'ailleurs...
Eh bien, quoi de mieux pour fouler des ailleurs nouveaux que la bande dessinée, et ça tombe bien, 2020, c'est l'année de la BD. Alors l'occasion de se plonger dans les ouvrages conseillés par la presse aujourd'hui. Dans Préférence Système, Hugo Bienvenue nous embarque dans un monde où toute donnée jugée périmée est supprimée. Le personnage, Yves, tente donc de sauvegarder des siècles d'art et de culture voués à être détruits dans un robot qui contient également l'esprit de son futur enfant. Une dystopie magique sur la transmission et la création à lire de toute urgence. Vous pourrez également opter dans un tout autre genre pour la balade du soldat Oda de Christian Rossi et Cédric Aïkian. Dans l'Est de la France, en 1915, un contingent de rangers canadiens vient aider les soldats français terrés dans l'étranger. Parmi eux, un commando de snipers américains dirigé par Joseph Odawa, guerrier impitoyable. Une BD réussie qui oscille entre l'histoire et les westerns à la Sergio Leone. Et enfin, on vous conseille Nagasaki, roman graphique d'Agnès Ostaché, dans lequel un vieil homme découvre qu'une femme sans domicile vit en clandestine chez lui. Un roman graphique sobre, puissant et épuré, inspiré justement d'un fait divers. Une presse libre, pertinente, vraie, courageuse et originale pour une année vivante, riche et étonnante, une année de progrès et de création, voilà ce qu'on peut souhaiter ce soir.
Ouais, on y croit. Ok, et ben merci beaucoup Marie, et on passe tout de suite au billet d'ailleurs, avec Nicolas. Et tu nous emmènes où Nicolas ce soir ?
Mais je vous emmène en même temps ailleurs, mais ici un peu partout. En vérité, non, je vais parler du conflit entre les États-Unis et l'Iran, et je vais commencer avec la date d'aujourd'hui. 16 janvier 2020, premier JRA de la décennie. Nous sommes tous fin prêts à vous relayer une actualité égalisée, amplifiée, sans aucun différé, du travail acharné. Et oui, on m'appelle le Riemayeur. Je déconne. C'est vrai qu'on continuera à relayer l'actualité aussi longtemps que l'actualité existera, mais qui sait ? Peut-être que d'ici l'été prochain, nous serons tous envoyés en Iran, en bande, pour combattre aux côtés de l'OTAN. Si, je l'ai lu sur Twitter la semaine dernière, c'est apparemment la troisième guerre mondiale, et personne n'est épargné. Bon. La vraie histoire commence le 3 janvier, jour de la frappe ciblée états-unienne lors d'un raid aérien sur l'aéroport de Bagdad contre Rassim Soleimani, un commandant des opérations militaires extérieures du régime iranien, provoquant une escalade sensible dans les tensions entre les deux puissances. Même si, depuis, Téhéran et Washington jouent la carte de l'apaisement pour éviter un conflit armé de plus grande ampleur, ce que craignent les spécialistes du Moyen-Orient, c'est surtout que les deux camps canalisent cette tension géopolitique vers des territoires environnants, créant une situation de l'ordre de la guerre par procuration, maintes fois vue durant la guerre froide.
La ligne rouge a été franchie et cette attaque complètement disproportionnée de Washington a un effet rassembleur en Iran, explique Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, auprès de France Info. Désormais, des groupes de différentes sensibilités font front commun face à l'ennemi américain. La logique de riposte est en cours, via les milices chiites, par exemple, à l'extérieur du territoire iranien. En Irak, Moqtada el-Sadr a réactivé l'armée du Mahdi. Les milices chiites, dont certaines sont en sommeil, sont une façon en fait pour l'Iran de riposter. Au-delà de cette influence régionale, cette crise peut aussi réveiller les clivages de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien avec l'intervention d'autres puissances, explique Amélie Chelli, spécialiste du chiisme au CNRS. Bref, si l'Iran sait qu'elle ne fait pas le poids dans le cadre d'un conflit militaire direct avec les États-Unis, leur présence est partout dans la région, en Irak, au Yémen, dans le détroit d'Ormuz, qui se trouve entre le golfe d'Oman et le golfe Persique. Finalement, on se rend bien compte que même si Téhéran n'a absolument pas l'intention d'attaquer frontalement les USA sur leur territoire et de provoquer une guerre qu'elle n'a aucune chance de gagner, et de toute façon les liens commerciaux et diplomatiques indirects entre l'Iran et les États-Unis sont bien trop nombreux, le conflit continuera à se développer aux marges de leur territoire, se focalisant sur des cibles plutôt symboliques mais toujours périphériques. On risque en somme d'assister à la démultiplication d'événements qui seront décrits comme fortuits par les gouvernements impliqués, comme par exemple mercredi 8 janvier où l'on apprend que l'Iran aurait abattu par erreur, oui je cite par erreur, un Boeing 737 d'Ukraine Airlines avec un missile soviétique, oui soviétique, près de Téhéran, un crash qui a coûté la vie à 176 personnes. Bon, pas de morale particulière pour cette histoire, à part peut-être que ces temps-ci, il ne fait pas vraiment bon de prendre un vol Téhéran-Kiev ou d'habiter dans un centre-ville à moins de 1000 km de l'Iran ou d'être un lycéen états-unien ne sachant pas trop quoi faire de sa vie qui ne sait pas qu'il croisera un recruteur de la marine juste assez convaincant là, au coin de ce couloir, entre deux cours. Même si c'était pas leur guerre, comme dirait Rambo.
Oh, belle conclusion, merci. Et on passe sans plus attendre au billet politique avec Adèle qui va continuer de nous faire le petit point sur cette mobilisation des retraites. Qui... Est-ce qu'elle s'estompe? Est-ce qu'elle augmente? Est-ce qu'elle diminue cette mobilisation?
Alors, justement, c'est un peu tout l'enjeu de ce point politique. Alors, effectivement, non, on ne peut pas dire que la mobilisation s'arrête, s'essouffle complètement ou est sur le point de totalement se disperser. Alors, pour l'instant, elle continue. Aujourd'hui, c'était le sixième jour de mobilisation appelé par l'intersyndicale depuis le 5 décembre. Et force est de constater que cette journée se termine quand même moins en beauté que les précédentes, puisque cet après-midi, l'AFP, aux alentours de 15h, dénombrait à peu près 42 000 manifestants en province. Selon la CGT, 250 000 personnes auraient défilé à Paris, donc c'est un chiffre évidemment bien supérieur à celui donné par la police, qui est lui probablement bien inférieur à la réalité, mais qui témoigne quand même d'une baisse du nombre de manifestants, puisque le syndicat comptait 370 000 personnes dans les rues de la capitale le 9 janvier. Donc le nombre de grévistes est lui aussi en baisse. Il y a seulement par exemple un peu plus de 6% de grévistes chez les enseignants aujourd'hui, dans le primaire comme dans le secondaire. Et quand désormais seulement 4 raffineries connaissent des perturbations, alors que la totalité de celles-ci était bloquée sur le territoire national au plus fort de la mobilisation.
Et alors pourquoi il y a une telle diminution du nombre de grévistes et de manifestants? Est-ce que la manifestation et la mobilisation, elles sont en train de s'essouffler?
Évidemment, bon, il y a sans doute un facteur de lassitude à prendre en compte, puisque ça fait quand même plus de 40 jours que la mobilisation a commencé, et c'est beaucoup pour un mouvement social. C'est même probablement le mouvement social le plus long en termes de jours de grève reconduite depuis mai 68. Et d'un point de vue économique aussi, donc la grève elle a un coût lourd, sans mauvais jeu de mots, pour les grévistes. Et enfin, la division des organisations syndicales joue sur la motivation, puisque donc la CFDT a salué, je cite, un geste d'ouverture, un pas dans la bonne direction face au recul temporaire de l'exécutif sur la question de l'âge pivot. Donc ça n'aide pas à remotiver les troupes. Mais pourtant, donc selon Le Monde, qui s'appuie sur plusieurs sondages réalisés récemment, la mobilisation reste soutenue par la plupart des Françaises et des Français, de même que l'opposition à la réforme demeure majoritaire.
Mais alors, comment est-ce qu'on peut sortir de ce paradoxe où l'opinion continue d'être opposée au mouvement et pourtant la mobilisation, elle, décroît ?
Bah alors, c'est tout l'intérêt justement de ce mouvement, puisque les chiffres de la mobilisation ne sont peut-être pas historiques, on reste quand même en dessous de ce qui avait été vu en 95 par exemple, mais on assiste à une augmentation d'actions symboliques de soutien au mouvement. On peut penser par exemple aux danseuses de l'Opéra de Paris qui ont interprété le 24 décembre un extrait du Lac des Cygnes sur le parvis du bâtiment en soutien à la grève, ou encore aux avocats à Caen le 8 janvier qui ont jeté leur robe au pied de la ministre de la Justice Nicole Belloubet, ou plus récemment aussi les avocats stéphanois, donc des avocats locaux bien de chez nous, qui se sont fait prendre en photo en train de donner leur sang avec un panneau, panneau qui disait « quitte à se faire saigner, autant que ce soit utile ». De même, donc l'occupation de l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine récemment, au début de la semaine, a été une action symbolique très forte, notamment donc des grévistes ont soudé les grilles, ce qui témoigne quand même de leur détermination.
Et pourtant ces actes ne sont pas massifs, ce ne sont pas eux qui vont faire s'inverser le rapport de force, non ?
Alors effectivement, je suis d'accord avec toi Mathilde, la portée de ces actes, comme je disais, est essentiellement symbolique. Alors ce sont des gestes forts qui marquent, qui sont relayés dans les médias, qui rendent visibles notamment des corps de métier, par exemple les avocats, les danseuses de l'opéra qui ne sont traditionnellement pas les plus visibilisés lors des mouvements sociaux, même quand ils se mobilisent justement. Et donc si ces actes ne suffisent pas à inverser le rapport de force, ils permettent néanmoins de montrer la solidarité de ces grévistes aux secteurs clés qui tendraient à se démobiliser, comme les cheminots de la SNCF, les agents RATP ou les personnels des raffineries. Ces actes permettent aussi de montrer que l'ensemble de la société reste mobilisé. Alors certes, ils ne suffiront pas à faire plier le gouvernement, puisque le rapport de force, le rapport de force, il se joue dans le blocage de l'économie et dans la rue. Mais néanmoins, il peut quand même encourager les grévistes démoralisés à continuer la mobilisation, puisqu'ils se sentiront plus soutenus, et en attendant que d'autres secteurs se mettent en grève, notamment, on pense évidemment ici à l'enseignement et la recherche, qui devraient se mobiliser dans les prochains jours, un peu plus.
Merci pour ce petit bilan à mi-parcours, on va dire, de la mobilisation contre cette réforme des retraites. Et après la politique, c'est l'économie qui suit.
Bonsoir Mathilde, bonsoir à toutes et tous. Parlons ce soir d'un sujet qui devra faire et fait déjà l'objet d'un véritable débat au sein des sphères politiques mais aussi de nos sphères scientifiques et citoyennes. Je parle bien du financement de la transition énergétique. Si, et à l'exception d'une poignée de bigots, l'urgence climatique n'est un doute pour personne, les moyens pour y faire face font l'objet d'un plus grand doute, en particulier lorsqu'il faut mettre évidemment la main au porte-monnaie. En effet, les comportements individuels, cela devient assez clair, ne suffiront plus à inverser la tendance, et c'est bien une tendance de fond bien plus importante qui fera la différence dans la lutte contre le bouleversement climatique et pour des jours meilleurs. Toutefois, il existe aujourd'hui déjà des dispositifs mis en place pour financer et accélérer la transition écologique et également la transition énergétique, mais ceux-ci sont trop faibles ou trop peu utilisés pour avoir un véritable impact sur l'avenir de notre société. Voyons ensemble quels sont ces moyens pour financer la transition écologique et surtout demandons-nous qui seront les perdants, voire les gagnants de ce financement. Pour commencer, le gouvernement a assumé encore récemment sa volonté de transférer l'épargne des Français de placements peu risqués vers des placements plus risqués, plus ambitieux. En témoigne l'annonce hier, le 16 janvier 2020, par Bruno Le Maire de baisser le taux du livret A de 0,75% à 0,5%. Ainsi, les épargnants français, les ménages français, sont incités à quitter leurs placements d'épargne traditionnels pour placer leur épargne sur des produits plus risqués, donc plus rentables, comme le financement aujourd'hui de la transition énergétique et écologique qui nous intéresse. Toujours du côté des ménages, il existe un certain nombre de mesures fiscales, dites « incitatives » entre guillemets, qui peuvent être mises en place à la fois pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les comportements polluants et, par la même occasion, augmenter les recettes fiscales qui peuvent être, elles, ciblées vers le financement de la transition écologique également. On pense évidemment au dernier exemple en date, à la taxe carbone qui est à la source de la colère des Gilets jaunes en novembre 2018 et dont l'utilisation vers des objectifs qui n'étaient pas ceux initialement annoncés de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de lutte contre la pollution avait suscité la grogne de beaucoup en plus de l'augmentation du prix du pétrole et du gasoil à la pompe. Toutefois, il est possible d'utiliser son appareil fiscal de manière à inciter la consommation de produits respectant l'environnement plutôt que de désinciter la consommation d'autres.
Toutefois, cela est possible de baisser le prix de certains biens de consommation plutôt que d'augmenter le prix d'autres. C'est de ne pas faire payer aux ménages le coût de la transition. Il s'agit là d'une mesure qui, une fois de plus, vise la consommation de biens qui peuvent éventuellement polluer, et en aucun cas d'une mesure qui appelle à une véritable prise de conscience collective, à un véritable changement des mentalités, et on peut donc se poser la question de leur efficacité quant aux objectifs que l'on s'oppose, objectifs qui aujourd'hui apparaissent comme des objectifs de survie. Toujours sur la question de fiscalité, on peut se pencher sur le cas des entreprises. L'État peut de nouveau utiliser son pouvoir fiscal, qui est singulièrement fort en France, pour désinciter les entreprises à polluer, ou au contraire, accompagner par des réductions fiscales celles qui ont d'ores et déjà un bilan carbone faible. Toutefois, une augmentation de la fiscalité viendrait grignoter la marge des entreprises, et cela se répercuterait soit par une augmentation de la production, ce qui est très loin d'être un objectif écologique, ou par une augmentation des prix, ce qui est très loin d'être un objectif politique, puisque ce sont une fois de plus aux ménages, et surtout les plus précaires, de supporter cette taxe au final. Alors que d'autres solutions peuvent éventuellement exister. Je veux parler ici de la lutte contre l'évasion fiscale qui représente un manque à gagner pour l'État français de plus de 80 milliards d'euros par an. La taxe sur le GAFA qui était dans les cartons de l'Union européenne et qui a été malheureusement abandonnée. La taxe sur les transactions financières à la Tobin où il s'agit de taxer chaque transaction financière qui passerait par la France et qui permettrait de lever des sommes bien plus conséquentes que des sommes qui viseraient à précariser encore plus les ménages aujourd'hui. Avec un coût aujourd'hui estimé dans une fourchette allant de 850 milliards à 1150 milliards d'euros, la transition énergétique, qui n'est seulement qu'un volet de la transition écologique, n'apparaît plus vraiment comme un coût. Il apparaît aujourd'hui, au début de l'année 2020, comme un investissement sur la jeunesse, un investissement sur la recherche, un investissement sur la paix, un investissement sur la qualité de vie humaine et un investissement sur l'humanité.
Eh bien, c'est un beau programme politique que tu nous as vendu là, Nathan. Merci. Et après la politique, après l'économie, on fait une petite pause et on va faire du sport.
Un entraîneur,
ça doit être entraînant.
Oui, mais là, ça pique.
Respectez ! Pas peur de fondre ! Pas peur de fondre !
Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud !
C'est mieux que l'année dernière, non, mon Garros. L'année dernière, on n'avait pas d'opium, hein, je te rappelle.
Quel scandale cet arbitrage, ça ressemble.
Ah, et oui, bien sûr, c'était Mathéo qui nous parlait d'économie. Nathan, il n'est pas là ce soir, malheureusement.
On va revenir tout d'abord sur l'Australie, où il n'y a pas de problème de nom, mais où doit se tenir à partir de lundi prochain l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de l'année qui se jouera à Melbourne. Sauf que en Australie, il y a du feu, le feu ça fait de la fumée ça irrite la gorge. Alors que plusieurs joueurs ont déjà abandonné lors du tournoi de qualification, comme la Slovène Dalila Jakupovic, la question d'un report, voire d'une annulation du tournoi ne se pose toujours pas chez les organisateurs. Le directeur du tournoi a d'ailleurs déclaré « Vous pouvez aller sur plusieurs sites et plusieurs applications qui vous donneront une mauvaise grille de lecture de la situation. » Donc encore un bel exemple de climato-sceptisme des dirigeants australiens. Si plusieurs joueurs ont déjà tenté d'alerter sans succès sur la dangerosité de la situation, d'autres attendent un signe de la part des Federer, Nadal et consorts pour que la situation soit vraiment en mesure de changer. Après tout, ce sont eux que le public va voir et pas Benoît Paire.
Et là, tu m'as écrit une relance. Je vais la lire parce que cette blague vient de toi, pas de moi. Et du coup, quand est-ce que Benoît perd ?
Alors malheureusement, la rédaction n'est pas encore en mesure de vous donner la date, mais je peux vous informer d'autres victoires françaises, comme celle de Martin Fourcade cet après-midi sur le sprint de Ruhpolding, et qui font suite à ses deux victoires de la semaine dernière à Oberhof. À signaler tout de même que toutes ces victoires ont lieu alors que son plus grand rival, le Norvégien Jonas Bø, est absent car en congé maternité. Et même si, on est sûr qu'il ne dispose pas de ski truqué, à la différence de la polémique qui agite en ce moment le monde de l'athlétisme, pour une fois que c'est pas le dopage, en cause la chaussure Nike Vaporfly Next Percent, je ne sais pas, et sur sa lame de carbone intégrée dont Phileas se fera une joie de vous expliquer le fonctionnement parce que j'y comprends rien. En effet, les records du monde de marathon féminin et masculin, du semi-marathon et moult autres records nationaux ont été battus par des athlètes portant ces chaussures magiques aux pieds, à tel point que la Fédération internationale serait sur le point de les interdire pour favoriser l'équité entre les athlètes, à moins qu'un intense lobbying des marques ne change la donne, alors qu'on m'informe que les prochains championnats du monde auront lieu dans la ville qui abrite le siège social de Nike.
Et allez, des informations sur un sport sans dopage.
Eh bien oui, un sport 100% propre, 100% équitable, 100% durable, la perche à voile. Alors la perche à voile, c'est un sport qui se pratique en extérieur pour des raisons sécuritaires évidentes et qui consiste à accrocher une voile de kitesurf ou de parapente, ce sont les écoles, à une perche. Comme pour le saut traditionnel, il faut passer au-dessus d'une barre située à une hauteur variable sans évidemment la faire tomber, que ce soit avec sa perche, son corps ou sa voile. Il est tout naturellement interdit d'utiliser un ventilateur ou tout autre outil pouvant favoriser la direction du vent. Et s'il est nécessaire d'utiliser le vent pour franchir la barre, il faut signaler que les athlètes doivent retomber dans une limite de 5 mètres derrière la barre, afin d'éviter les sauts trop hauts, voire jamais interrompus. Enfin, s'il est permis de sauter avec un bateau, c'est peu recommandé parce qu'un bateau, bah, c'est lourd.
Merci. Heureusement qu'il y a des informations capitales qui sont annoncées au JR.
C'était la pause.
Et on passe tout de suite à l'italienne avec toi Clément. Et oui, déjà l'heure de partir en Italie.
Et oui, oui. Eh ben salut tout le monde, bonne année 2020. Moi j'aurais bien fait cette chronique pour terminer l'année, mais malheureusement j'ai pas pu. Et donc pas de grandes envolées ce soir, mais un petit point sur la souvent incompréhensible politique italienne. Bon, c'est pas par hasard, hein. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a dit non à un référendum voulu par l'extrême droite, par la Ligue de Matteo Salvini, qui voulait imposer, à rebours de la tradition et de l'histoire du pays, une loi électorale 100% majoritaire et pas proportionnelle.
Et comment est-ce qu'on en est arrivé là ?
Bon, alors la séquence politique actuelle dure depuis les élections de mars 2018. À leur issue, il y avait un Parlement à majorité introuvable, puisqu'aucune coalition traditionnelle, la droite, le centre-gauche ou le mouvement 5 étoiles tout seul, ne recueillait le nombre de voix nécessaires à pouvoir gouverner. La faute à une loi électorale qui à l'époque était très complexe, qui avait été retoquée plusieurs fois, et s'en est suivi une année de gouvernement d'extrême droite, une alliance entre deux partis que rien ne réunissait à part peut-être l'opportunité de gouverner enfin, et la création du phénomène Salvini qui était parvenu à réduire en miettes le mouvement 5 étoiles. Alors ce gouvernement hétéroclite avait porté des mesures restrictives en matière de migration, ça en général c'est connu, des mesures répressives dans le domaine de la sécurité publique, comme tout bon gouvernement d'extrême droite. Le mouvement 5 étoiles, quant à lui, avait dû se résigner à une portion congrue de mesures sociales, le revenu de citoyenneté pour aider le Sud très pauvre, et une réforme des retraites qui ramenait l'âge de départ à 62 ans avec 38 années de cotisation.
Et aujourd'hui, l'extrême droite, elle n'est plus au pouvoir.
Alors pas vraiment, parce que même si le visage du président du Conseil est toujours le même, il est désormais à la tête d'une autre alliance entre le Parti démocrate, qui est de centre-centre-gauche, et toujours le mouvement 5 étoiles, seule force pivot dans le Parlement, puisque le mouvement 5 étoiles doit participer au gouvernement pour avoir une majorité. Mais cette alliance est bien fragile, alors que Salvini et à droite sont toujours à un niveau très supérieur dans les sondages. Et c'est tout l'enjeu des questions de loi électorale, puisqu'une loi proportionnelle permettrait à des partis arrivés deuxième, troisième, voire quatrième de gouverner ensemble, et ce serait le cas des partis actuellement au gouvernement. C'est donc le souhait de ces partis de la majorité actuelle, et ça s'inscrirait dans une tradition italienne qui a toujours garanti la plus grande représentativité des électeurs pour éviter que se reproduisent des expériences désagréables. Salvini, quant à lui, galvanisé par son rêve d'être l'homme fort du pays, souhaite un système majoritaire pour gouverner seul et emporter tout sur son passage. La Cour constitutionnelle, pour l'instant, lui a donné tort en lui refusant le référendum, mais ce n'est peut-être que partie remise.
Et tu nous donneras des nouvelles de cette situation dans les mois à venir. Merci beaucoup Clément pour cet éclairage. Il est 21h04, on rattrape lentement mais sûrement notre retard et on passe tout de suite à l'édito scientifique et plein de bactéries dont va nous parler Phileas. Air-conditioned bunker
where the Norwegians have stored heritage. Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinu à la fin.
Alors quand on pense bactéries, on s'imagine tout de suite des maladies plus ou moins dangereuses allant de l'ongle à carnet à la peste.
Mais la première chose à rappeler est que toutes les bactéries ne sont pas mauvaises dans le fond. Certaines ont la gentillesse de produire du fromage, d'autres sont nécessaires au transit intestinal, certaines produisent des colorants et pigments naturels. Il y a en fait pléthore de bactéries dont les effets sont bénéfiques. L'industrie les utilise même pour produire de l'insuline à usage médical plutôt que d'abattre des cochons.
D'accord, mais comme tu nous l'as dit, elles ne sont pas toutes aussi gentilles.
C'est vrai, mais certaines aussi vivent dans des milieux sans avoir quelconque effet. On peut par exemple citer le staphylocoque doré, qui est responsable d'infections que je ne souhaite à personne. Pourtant, 30% de la population vit avec ces bactéries dans le nez. Ça fait beaucoup quand on y pense. Et ça, elle ne devient, le nez est un lieu idéal pour qu'elle se développe et se nourrisse sans faire de mal à personne. Elle ne devient pathogène que si elle franchit la barrière de la peau et arrivera alors à se développer, ce qui se passe plus souvent à l'hôpital qu'à l'extérieur. On parle ici de commensalisme, c'est-à-dire que l'on fournit gîte et couvert à ces demoiselles sans qu'elles nous apportent grand-chose. Le seul danger réside ici donc dans les bactéries pathogènes à qui on fait la guerre.
Mais j'ai entendu dire qu'on avait de plus en plus de mal avec la résistance aux antibiotiques, par exemple.
C'est vrai, et c'est l'un des fléaux de notre temps, puisque les bactéries évoluent très rapidement, et quand on utilise un antibiotique, on ne tue pas les plus fortes de la colonie. Donc c'est suffisant pour aider le système immunitaire, mais à force de trop les utiliser, elles finissent par devenir toutes résistantes. Et c'est ainsi que l'efficacité de l'essentiel des antibiotiques connus diminue au fil des ans. Mais comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir, et pour éviter de tomber malade, rien de plus efficace que de se laver convenablement les mains avec un savon quelconque et de se couvrir entièrement et de tousser dans son coude ou dans un mouchoir plutôt que dans une main fébrile à 20 cm du visage qui n'aurait aucun effet.
Alors merci pour ces petits rappels d'hygiène, mais il y a quelque chose qui me dit que c'est pas suffisant, non ?
Non, en effet, on peut toujours tomber malade, et d'autant plus qu'un phénomène est de plus en plus étudié chez les bactéries, qui est ce qu'on appelle la persistance. Certaines bactéries qui ne sont pourtant pas résistantes à l'antibiotique utilisé peuvent modifier leur structure externe pour se cacher du principe actif. Elles entrent alors dans une forme de sommeil, puisque certes, elles se cachent de l'antibiotique, mais perdent en contrepartie leur effet pathogène et leur capacité à se multiplier et prennent ainsi leur mal en patience. Dès lors qu'on arrête le traitement parce qu'on n'est plus malade, elles peuvent sortir de ce sommeil et redevenir virulentes.
Et le mot de la fin ?
Le mot de la fin, c'est une petite anecdote fleurie. Puisque quand on dit d'un fromage qu'il sent les pieds, voire que des pieds sentent le fromage, on n'est en fait pas si loin de la vérité, parce que Brevibacterium linens, de son nom scientifique, est une bactérie utilisée pour la confection de fromages, dont le Munster, qui est très loin d'avoir une odeur neutre, et que de nombreuses bactéries du genre Brevibacterium tapissent la plante des pieds. Elle sécrète même des carotènes, qui sont des pigments orangés que l'on retrouve à la fois dans la croûte du Munster et dans la peau des pieds. Et dire qu'avec ça, un Munster ne passe pas la frontière des États-Unis, alors qu'il est plus proche de l'homme qu'une Kalachnikov qui, elle, peut passer la frontière, mais ça, c'est un autre débat.
Merci pour tous ces petits détails ragoûtants, Phileas. Alors, il est 21h07 et c'est l'heure de la musique au JRA sur Transistor.
Je vais dire des trucs simples.
Et donc j'avais commencé aujourd'hui avec quelque chose de calme. Oui, je ne sais pas si c'est parce que Nathan n'est pas là ou que toutes ces mouvements sociaux, ces grèves, ces manifestations, ces tirs de flashball et ces blessés me donnent envie, mais en tout cas je voulais quelque chose de calme et d'aérien que nous allons écouter tout de suite. tellement aérien que l'on a l'impression de ne rien entendre. C'est donc Spellbound, un quartet fondé par Noé Sekula au piano. Il est accompagné de Felipe Silva Mera à la guitare et d'Adrien Bernet et Chichi Garcia à la batterie et à la contrebasse. Ce jazz actuel, qui nous rappelle beaucoup Brad Meldo ou Keith Jarrett, basé entièrement sur l'improvisation, nous présentera un tout nouveau répertoire après-demain, le 18 janvier. Un tout nouveau répertoire qui piochera aussi bien dans l'acoustique et que l'électrique et qui nous réserve beaucoup de surprises à 20h au Hot Club pour seulement 8 euros.
Ah.
Oui, c'est bon, on a compris, Mathilde. Je sais, je fais pas souvent des trucs calmes, et cette fois-ci, j'avais envie. Bon, Arthur, lance l'autre. Et donc ça, c'était du folk metal épique, le wow. Sixième album d'un groupe nommé Equilibrium, qui passera le 25 janvier avec Lords of the Lost, un groupe de dark metal, et Nailed to Obscurity, un groupe de death doom mélodique, tout en douceur entre symphonie metal et mélodie, à 19h au Ninkasikao pour 28 euros.
Et Martin, je crois que Nicolas te fait signe.
Oui, c'est bon Nicolas, je vais la passer ta musique, je sais que tu en avais envie. On y va.
Tu sais, moi je rêve être neuve demain, dans le vent, être sève et veuve des chagrins. Souvent je rêve aussi d'ailleurs ou d'autres choses. Je rêve que je suis écorce, que mon parfum abreuve ton souvent, si j'enrage dans les forêts nues, novembre nous perd.
Et c'était donc une proposition de Nicolas. Bon, personnellement, je trouve ça un peu larmoyant, mais il faut avouer que la voix est quand même magnifique. Et cette voix, c'est celle de Raphaël Lanader, autrement intitulée Elle, qui passera le 19 janvier à 17h au Théâtre Comédie Odéon pour 17,50€ pour les étudiants. Et on va finir avec un peu d'ambiance parce que là, Nicolas nous a clairement plombé le moral. Et je vous propose
Merci,
The Keystone Crew Organ Quintet. Ce lapsus était très étrange. Personne ne le notera. un groupe constitué de guitare, d'orgamon, de batterie, de trombone et de trompette qui passera à partir de 20h30 à la Clé de Voûte dans le premier et qui est surtout entièrement gratuit le 23 janvier.
à 21h11, on avait une chronique culturelle toute fraîche pour l'année 2020 avec Judith, mais Judith a littéralement disparu, donc avec un peu de retard, on va se dire qu'elle arrivera pour le prochain JRA. Et à 21h11, on va clôturer ce journal radiophonique amplifié. En régie, c'était Arthur Kramer, et ce soir, il y avait Martin Touzeau, Nicolas Sendé, Marie Douniac, Adèle Domas, Clément Lui, Phileas Larcher et Victor Andrade. Nous remercions également UNS Média pour son soutien technique. Le JRA, c'est une émission coordonnée par Mathilde Picard et la prochaine diffusion, ce sera le 30 janvier.